Sermon Xive, le royaume de Dieu au-dedans, tous doivent venir à en attester l'établissement au-dedans prononcé par Stephen Crisp à la salle de réunion de Gracechurch Street, le 26 octobre 1691. Vous avez beaucoup lu et entendu au sujet du jour du Seigneur, comme d'un jour grand et remarquable. Beaucoup d'entre vous sont maintenant des témoins vivants que le grand et remarquable jour du Seigneur vient, dans lequel l'accomplissement de grandes et remarquables choses, les œuvres puissantes de Dieu, qui ont été prophétisées et peut-être légitimement attendues. C'est l'œuvre de tout chrétien d'attendre le Seigneur dans la lumière de ce jour et de connaître les œuvres du Seigneur, tant intérieurement qu'extérieurement. Car le jour du Seigneur est un jour de puissance, et cette puissance de Dieu opère des choses merveilleuses. Si nous n'étions pas gardés dans la lumière de ce jour, le Seigneur pourrait faire de grandes choses, et nous ne le saurions pas. Nous serions regardés comme des témoins des œuvres du Seigneur négligents et inattentifs, comme ceux qui n'y prennent pas garde. Si vous voulez être des témoins fidèles, vous devez avoir égard aux œuvres du Seigneur et à l'opération de ses mains. Celui qui entend être un témoin fidèle prendra garde à ce qui se dit et se fait. Vous êtes appelés à être témoins des œuvres du Seigneur Jésus-Christ et de ses actes. Vous devez vous tenir là où vous pouvez entendre, voir et comprendre ce que le Seigneur est sur le point de faire en ce temps. Dans votre témoignage et votre rôle de témoin, la plus grande chose que nous ayons à attendre en ce jour du Seigneur, c'est que Dieu établira le royaume de son Fils, Christ Jésus. À cela tous les prophètes rendaient témoignage en leur temps. Maintenant, c'est à nous d'en rendre témoignage par des expériences sensibles et vivantes de l'accomplissement de ces choses qui l'ont prophétisé, que le Seigneur établira le royaume de Christ et abattra et dévastera le royaume de l'Antichrist. Notre Sauveur enseigna à ses disciples de prier pour cela, il y a 1600 ans, afin que le royaume de Dieu vienne. Tous les vrais disciples de Christ, depuis lors, ont prié pour la venue de ce royaume, et beaucoup en ont vu la venue et s'en sont réjouis, et d'autres sont morts dans la foi de celui-ci et ont été rassemblés dans le royaume des cieux. Mais mes amis, ce qui nous concerne principalement aujourd'hui, c'est de contempler le royaume de Christ, le Fils éternel de Dieu, au-dedans de nous, avancé et prospéré, et le royaume de l'Antichrist réprimé et détruit, et entièrement dévasté, et cela s'opère de deux manières, 1. Intérieurement, 2. Extérieurement, premièrement intérieurement. Il y a dans l'esprit des gens une plus grande inclination à regarder davantage à l'opération de la puissance de Dieu dans cette grande œuvre au dehors qu'à la regarder au-dedans, mais pour cela il faut prendre chaque jour sa croix, et il m'appartient en ce temps de vous dire au nom du Seigneur que votre devoir et le mien est de tourner nos pensées vers l'action de la puissance de Dieu en nous-mêmes, et de voir cet autre royaume de l'homme de péché s'affaiblir et être abattu en nous. Alors il n'y a pas à craindre qu'il poursuive son œuvre au dehors, et nous verrons autant de cette œuvre qu'il appartient à notre génération. Mais la grande affaire et la préoccupation principale pour vous et pour moi, c'est de voir le royaume de Dieu établi en nous, lequel consiste en sainteté et en justice. Notre tâche est de marcher jusqu'à ce que nous voyions la justice de ce royaume établi en nous, dans nos cœurs et nos âmes, et qu'un réel changement s'opère. Nous savons tous, et nous devons le confesser, que nous avons été assujettis à l'homme de péché, quel que nous soyons maintenant. Nous avons vu le règne et le gouvernement, la rage et la tyrannie du méchant qui nous a conduits à la rébellion et à la désobéissance envers le Seigneur notre Créateur. Comment nous plaît-il d'être gouvernés par le diable, d'être menés en captivité, d'être amenés à faire sa volonté et à nous rebeller contre Dieu qui nous a donné la vie, le souffle et l'existence? Comment nous plaît ce gouvernement de Satan? J'espère qu'aucun de nous ne l'aime. Il en fut ainsi pour moi. Ceux qui sont sous le gouvernement tyrannique de Satan ont dans leurs âmes bien des cris et des souhaits d'en être affranchis et délivrés, et d'être placés sous le gouvernement et l'obéissance de Christ Jésus. Ils souhaitent pouvoir servir Dieu comme ils le devraient, afin d'être transférés du royaume du péché et de Satan au royaume du Fils de Dieu, bienheureux et tendrement aimé. Tel a été le cri de certains depuis qu'ils connaissent le monde, et je suis persuadé que c'est le cri de beaucoup aujourd'hui. J'ai de bonnes nouvelles à vous apporter, non pas que le jour de votre rédemption approche, mais qu'il est venu. Le jour de la rédemption est maintenant venu, et un grand nombre bénissent et glorifient le nom de Dieu d'être rachetés et délivrés de la servitude de la corruption, et d'avoir plus de joie et de délices dans le service de Dieu, qui les a fait, qu'ils n'en ont jamais eu dans le service du Dieu de ce monde. Mais certains ne diront-ils pas, comment cette grande œuvre sera-t-elle accomplie? Car c'est une grande œuvre, et nous pensons véritablement que rien sinon une puissance toute-puissante ne peut l'effectuer. Car il y en a beaucoup dans cette assemblée qui ont essayé sans résultat, et ont fait ce qu'ils pouvaient de leur propre force pour délivrer leurs âmes de la mort, et pourtant ils se trouvent encore dans la servitude. Non, ils ont même fait appel à l'aide et à l'assistance de ceux qu'ils croyaient plus forts qu'eux, et tous ont échoué, et ils sont encore faibles et empêtrés, et ils ne peuvent se trouver libres de servir le Seigneur comme ils le devraient. Je suis de cet avis, rien sinon la puissance toute-puissante de Dieu ne peut le faire. Et lorsque vous en viendrez par mon expérience à le savoir comme je l'ai su, alors j'espère que vous rechercherez cela, et vous en verrez une bonne raison, et vous en viendrez alors à cette profession. Si le Seigneur ne déploie pas sa puissance toute-puissante, alors je périrai, car il n'y a pas d'autre puissance qui puisse me délivrer. Lorsque vous en viendrez à le savoir, que devez-vous faire? Eh bien, vous devez attendre la révélation de cette puissance qui vous détournera de toute confiance et de toute assurance que vous avez jamais mise en quoi que ce soit d'autre. Un homme qui n'a rien en quoi se confier que la puissance toute-puissante, la miséricorde et la bonté de Dieu, met en elle toute sa confiance et toute son assurance, sinon il sait qu'il périra. Lorsqu'un homme ou une femme en vient à ce point de n'avoir rien sur quoi s'appuyer sinon le Seigneur, alors ils se réuniront pour attendre le Seigneur. Ce fut le premier fondement ou motif de l'établissement de nos réunions, et je souhaite à Dieu que ce soit l'usage que chacun en ferait, ceux qui y viennent, alors elles seraient utilisées justement et convenablement selon l'intention de leur institution au commencement. Nous devrions les utiliser comme des gens pauvres, désolés, sans secours, qui ont rompu avec toute leur propre confiance et assurance, et n'ont rien sur quoi s'appuyer sinon la miséricorde et la bonté de Dieu. S'il lui plaît de révéler sa puissance parmi nous, nous savons qu'il est capable de nous sauver, et nous aurons alors rencontré la révélation de la puissance de Dieu. Lorsque nous nous sommes réunis dans la simplicité d'esprit, il a plu au Seigneur de nous communiquer son esprit, de nous ouvrir une porte, et de nous faire découvrir et révéler que c'était le jour de sa puissance. Quand nous en sommes venus à nous examiner nous-mêmes, pour savoir si nous étions disposés en ce jour de la puissance de Dieu, car le prophète nous donne une note de distinction entre le peuple de Dieu et les autres peuples, « Ton peuple sera disposé au jour de ta puissance », ce qui revient à dire « Dieu leur découvre et révèle sa puissance, un tel peuple est disposé à se livrer au gouvernement de celle-ci ». Lorsque nous avons trouvé que nous y étions soumis, nous avons eu de la joie en croyant, avant d'atteindre le terme de notre espérance. C'était pour nous une allégresse de nous trouver disposés. Je suis persuadé que chacun de vous serait heureux de se trouver disposé à se défaire de ce dont vous vous plaignez. Quel cri ne s'élève-t-il pas à propos de notre servitude et de notre corruption, et de notre captivité sous nos convoitises? On peut entendre un tel cri d'un bout du royaume à l'autre. Les gens crient contre la servitude de la corruption et contre leur assujettissement au péché et à Satan. Je souhaite qu'ils soient sincères. Il n'y a pas chez les hommes et les femmes cette ardeur et cette réalité que Dieu recherche, et ainsi rien n'en résulte. Il n'y a ni rédemption ni délivrance, le Seigneur ne les entend pas, bien qu'ils viennent en sa présence pour offrir leurs prières. Je souhaite que vous soyez tous sincères, je vous veux du bien à tous. Et il serait difficile de dire que vous ne vous voulez pas du bien à vous-même. Voilà où réside votre bien, que vous vous trouviez disposé à être soumis à la puissance qui vous a fait. Vous avez été soumis, sans doute, à la puissance qui vous a détruit. Cette puissance qui ne vous a jamais donné vie ni souffle a été l'instrument de votre destruction. La puissance du Dieu de ce monde n'a jamais fait du bien aux hommes, elle les a détruits, trompés et privés de leur vie. Or, s'il n'y avait qu'une disposition en chacun de nous à nous livrer librement à la puissance qui nous a créés afin d'obéir à sa volonté, je suis certain qu'il n'y aurait pas parmi nous un seul homme ou une seule femme qui n'en recevrait bientôt la connaissance. Si je suis seulement disposé à être soumis à la loi de celui qui m'a fait, il ne faudra pas longtemps avant qu'il me le montre et révèle sa puissance en moi dans sa gloire et son excellence, puissance qui est plus capable de me préserver que toute la puissance des hommes sur la terre, ou que toute la puissance des démons en enfer n'est capable de me détruire. Quand le Seigneur montrera et révélera sa puissance en vous, vous serez disposés à y être soumis. Mais je pense que le bruit et le tumulte de la chair et du sang deviennent forts ici. Je crois entendre certains dire « j'aimerais être soumis à Dieu », mais je ne voudrais pas qu'il contrarie mon intérêt, ma volonté et me prive de ce que j'aime et après quoi je soupire. Je ne voudrais pas qu'il rende amers mes délices et plaisirs charnels et ruine ma réputation dans le monde. Paix, vous voyez d'où cela vient, vous voudriez marchander et établir un accord avec le Dieu de vos vies au sujet de ces choses. C'est une chose insensée, car de tous les peuples du monde, vous êtes un peuple qui a eu une vénération pour les saintes écritures, les écritures de vérité, et qui s'y est familiarisé comme avec n'importe quel livre au monde, et vous y trouvez des articles rédigés, depuis longtemps fixés et scellés. Il n'y en a pas de nouveau à rédiger. Si quelqu'un veut être mon disciple, Jean ou Thomas, Jacques ou Pierre, ou qui que ce soit, il doit prendre sa croix chaque jour, se renoncer lui-même et me suivre. Voici donc un contrat établi, détournez-vous par conséquent de toute forme de raisonnement et de consultation avec la chair et le sang. Si vous voulez devenir spirituel et participer aux bénédictions et aux bienfaits spirituels, je vous conseillerais de vous détourner de toute espèce de raisonnement qui vienne du gouffre des ténèbres, qui vous a trompé jusqu'ici et vous ruinera pour toujours si vous les écoutez. Car soyez-en assurés, nul homme ne peut instituer de nouvelles exigences évangéliques. Si quelqu'un vient prêcher un évangile avec de nouvelles exigences, tenez-le pour un trompeur, car il n'y a aucune possibilité d'être un disciple de Christ autrement qu'en prenant chaque jour une croix, en nous renonçant nous-mêmes et en le suivant comme notre chef et notre guide. C'est à lui que je dois aller, et n'aller par aucune autre voie, ne disant rien et ne faisant rien qui ne soit saint et pur. Il doit me conduire dans ma marche, me guider dans mon chemin et m'y justifier. Voilà ce que c'est qu'être un vrai disciple de Christ. Dès qu'il en vient à adhérer et à s'unir à la puissance de Dieu révélée dans son âme, il voit la venue du royaume de Dieu, il le voit de loin et se dit en lui-même, et en tire cette conclusion, « Je suivrai mon capitaine, je me soumettrai au royaume de Christ. Si j'obéis à ce principe divin de la grâce de Dieu et à l'évangile de Christ, je serai son disciple. » Je lis dans son livre béni que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Je ne dois pas proposer de nouvelles exigences, mais accepter les anciennes exigences de l'évangile de Christ. Je vois que le royaume de Dieu doit être établi et que le royaume du diable doit être abaissé en moi. Si je suis ce principe divin, je ne suivrai plus jamais le diable. S'il veut que je mente, je refuserai et dirai « je ne peux pas ». S'il veut que je me lance dans des propos vains et corrompues conversations et dans des plaisanteries folles, cela me servira de bride et je ne pourrai pas le faire. Je parle maintenant à des personnes qui vivent sous la lumière de l'Évangile de Christ et qui sont soumises par sa grâce. Je voudrais dire ce que toute la logique du monde ne peut renverser, ce que le logicien le plus rusé, avec tout son esprit et ses subtilités, ne peut réfuter ni prouver erroné. Si un homme est conduit par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas mentir, c'est un remède commun pour tous les hommes. Si je suis conduit par l'Esprit de vérité et que j'écoute le principe de vérité dans mon âme, cela me guérira et me soignera des blessures et des maux de ma nature corrompue et me mettra en liberté de mon ancien maître. Je n'aime pas son service. J'espère que si l'un de vous aime la servitude et l'esclavage du péché et de Satan, il désirera la liberté avant de mourir. Pourquoi ne la désirez-vous pas maintenant? Peut-être espérez-vous jouir d'un peu de liberté, de réputation et de plaisir dans le péché pendant de nombreuses années, pendant 6 ou 7, 9 ou 10 ans, puis y renoncer, vous repentir et vous tourner vers Dieu. Comment savez-vous que vous avez 10 jours à vivre? Il est de la plus haute importance pour chacun de nous d'attendre une manifestation de la liberté de l'Évangile et une capacité et puissance dans son âme lui permettant de rompre avec la servitude et l'esclavage du péché et de Satan, sous lesquels il a si longtemps vécu, et d'attendre Dieu avec patience pour qu'il mette son âme en liberté, établisse le royaume de Christ en lui et renverse le royaume de Satan. Ainsi il pourra être introduit dans le royaume de Christ, qui consiste en paix, justice et joie dans le Saint-Esprit. Telles sont les choses qui se suivent. Quand la justice est établie en moi, je ne serai pas troublé, j'aurai la paix. Et si j'ai la paix, j'aurai la joie, et cette joie est dans le Saint-Esprit. L'apôtre a dit que le royaume de Dieu consiste en ces choses. Afin que chacun puisse être persuadé que Dieu lui a donné une mesure de sa grâce, comme aux autres, qu'il considère et se dise en lui-même, « Dieu ne m'a pas exclu du nombre de son peuple. Il a frappé à la porte de mon cœur pour me conduire à la repentance, il a patienté envers moi si longtemps, assurément il a la volonté de me sauver. M'appellerait-il, s'il n'entendait pas que je me repente et me tourne vers lui? Mais où est la puissance, direz-vous, frappée à la porte du cœur, et les reproches de la conscience, nous les comprenons, mais nous ne comprenons pas où est la puissance qui nous permet de nous conformer à la volonté de Dieu. Les gens ne le comprendront jamais tant qu'ils sont dans le royaume de Satan et sous la puissance du prince des ténèbres. L'apôtre nous dit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas sur eux. Si les hommes voyaient la beauté de l'évangile, ils courraient après lui et l'embrasseraient. C'est pourquoi le diable aveugle leurs esprits, afin qu'ils ne voient pas la beauté et l'amabilité de l'évangile, ni n'aiment ses conditions. Il règne et gouverne les enfants de la désobéissance. Tant que je vis dans la soumission à cette puissance diabolique, infernale, qui me pousse au péché, je resterai étranger à la puissance de Dieu qui me donnerait de rompre avec cela. Sans la puissance de Dieu à l'œuvre en vous, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de triomphe. Il y a 3 sources par lesquelles la puissance de Dieu est libérée pour vous purifier. 1. La puissance dans la croyance et la foi en la vraie espérance et l'Évangile. 2. La puissance dans le port de la croix intérieure du renoncement à soi-même. Et 3. La puissance à penser au nom de Jésus. Cette puissance de Dieu agit en nous et nous garde, par la foi, pour le salut, c'est-à-dire pour être délivré du péché. La chrétienté aujourd'hui est sans la croix et sans la vraie espérance, et donc sans la puissance de Dieu, réduite à une forme, coquille vide du christianisme originel, sans la nouvelle vie de la nouvelle créature, sans sainteté, se vautrant dans le péché, se vantant de son imperfection périssant, dont la fin est la destruction. Car sans la puissance de Dieu libérée pour changer un homme, son cœur demeure plein de péché et inacceptable à Dieu, quoique ses lèvres puissent dire dans la forme du culte. La vraie espérance est détaillée dans Jean 14 et Jean 17 avec commentaires et notes de bas de page. Avec la vraie espérance, en portant la croix intérieure du renoncement à soi-même dans l'obéissance à ses paroles dites et entendues, tout en méditant sur le nom de Jésus, la combinaison de tout cela permet d'accéder à la puissance infinie et transformatrice de Dieu, pour agir en vous, vous nettoyer, vous purifier, vous délivrer de tout péché, et vous conduire à l'union avec Dieu dans son royaume, dès ici-bas et ensuite pour toujours. Vous ne lisez jamais dans les Écritures que quiconque soit parvenu à être sauvé par la puissance de Dieu sans qu'il y ait eu, mêlé à cela, la foi qui venait s'unir à cette puissance de Dieu. Notre Sauveur dit à l'homme impotent, « Ta foi t'a guéri, ta foi s'unissant à cette puissance de Dieu. Nous serons fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, et nous serons capables de résister aux tentations. Dès que l'âme de l'homme s'unit à la grâce de Dieu, elle abandonne le service de son ancien maître et gouverneur. Le péché n'aura plus de domination sur lui. Bien qu'il puisse rencontrer la même tentation, elle n'aura pas sur lui la même puissance, mais il sera rendu capable, par la grâce de Dieu, d'y résister et de la vaincre. Si vous demandez à un tel homme comment il se fait qu'il surmonte cette tentation qui auparavant prévalait sur lui, il vous dira « J'ai maintenant un aide, je suis maintenant uni à la grâce de Dieu dans mon âme, c'est pourquoi je résiste aux tentations et j'ai pouvoir sur elles. » Ainsi le royaume de Christ vient à être établi dans l'âme, et c'est ce qui nous rendra aptes et nous préparera pour le royaume éternel de Dieu. Ceux qui attendent Dieu verront cette œuvre opérée intérieurement en eux, ils connaissent plus par la foi qu'ils ne peuvent voir par les sens. Je sais et je suis certain que la puissance que le diable a dans le monde sera brisée, que la justice sera exaltée, et que le droit et l'équité prévaudront dans les nations. Je ne vivrai peut-être pas pour le voir, mais je peux le voir par la foi. J'ai vu assez pour ma génération, et ceux qui vivront dans la génération suivante le verront aussi. Car l'Église de Dieu est la même d'une génération à l'autre. Or il nous est donné de voir les choses qui, dans les générations passées, ont été prophétisées, Dieu ayant dit l'apôtre, pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin que sans nous il ne soit pas rendu parfait. L'Église de Dieu, d'une génération à l'autre, à sa mesure et son degré de service, elle rend son témoignage propre et laisse le reste aux générations suivantes. Il nous appartient, dans notre génération, de voir un changement s'opérer intérieurement dans nos âmes, le royaume de Christ s'établir au-dedans de nous, et le royaume de Satan être abattu en nous-mêmes. Cela ne concerne pas seulement mon fils ou mon petit-fils, cela me concerne moi, et lorsqu'ils parviendront à l'âge mûr, en leur temps cela les concernera. Ainsi ce qui nous est le plus profitable, c'est d'avoir un poste et de nous tenir en un tel lieu en notre temps, où nous puissions voir l'œuvre de Dieu se poursuivre. J'ai souvent considéré qu'il y a en cet âge beaucoup d'hommes et de femmes courageux, qui auraient pu être d'éminents témoins de Dieu dans ce monde et rendre témoignage à sa vérité, mais leur foi a été faible et sans effet. Ils ont découvert leurs cœurs incrédules et se sont joints au troupeau commun du monde, parce qu'ils pensaient que de si grandes choses ne pourraient jamais être faites, que le royaume de Satan ne pourrait jamais être arraché et détruit, et que le royaume de Christ ne pourrait jamais être établi en nous. Mais j'espère pour vous de meilleures choses, des choses qui accompagnent le salut, et que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à la perfection, afin que des louanges vivantes et de joyeuses actions de grâce soient rendues à celui qui seul en est digne, qui est Dieu sur toutes choses, béni à jamais, à qui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Sermon XV, la voix sans souillure vers le repos éternel prononcé par Stephen Crisp à Devonshire House, le 29 juillet 1691. Mes amis, le Seigneur sera avec tout son peuple, qui est sans souillure dans la voie, et qui sont des voyageurs spirituels marchant dans cette voie sans souillure qui mène à un repos sans souillure. Il y en a qui, par cette voie, sont entrés dans le repos, ce repos que Dieu leur a préparé. Nous ne pouvons nous appliquer à nous-mêmes la promesse qui nous est faite d'entrer dans le repos, à moins d'être de véritables et authentiques voyageurs sur la voie qui y mène, car si nous ne sommes pas dans la voie, nous trompons nos propres âmes. Quel est le repos dans lequel nous devons entrer ? Le repos consiste à avoir cessé nos propres pensées, paroles et actes. Le repos consiste à entrer en union avec Dieu et à s'asseoir avec Christ dans les cieux, à devenir une partie de Christ dans son corps, à être vivifié par la puissance de Dieu, à recevoir des pensées de Dieu, des paroles à dire de Dieu, et à être montré par Dieu ce qu'il faut faire. tout étant suscité pour des actions nobles selon la volonté de Dieu. Le repos consiste à ne plus combattre nos ennemis, la convoitise, l'orgueil, la colère, l'immoralité sexuelle, l'avidité, la cupidité, mais à s'asseoir en arrière dans la pureté et la puissance en regardant la volonté de Dieu se déployer devant nos yeux et notre esprit, la volonté de chaque instant de notre vie, pourvue de la chose parfaite, noble, pure, constructive et utile à dire et à faire. Nous cessons d'être un individu et devenons une partie du corps de Christ, avec lui, la tête, nous instruisant de la chose parfaite à faire ensuite. Nous cessons nos œuvres mortes pour faire des œuvres de vie, en servant le Dieu vivant. Ainsi donc, vous qui avez eu une vue et une vision de la voie éternelle, qui conduit à un repos saint, vous êtes un peuple engagé à y faire des pas droits, et à en faire votre soin quotidien, et votre occupation continuelle, de veiller à ce que vos démarches et vos traces soient de même nature et de même espèce que le repos dans lequel vous désirez entrer. Car c'est un repos sans souillure, après lequel nous tous voyageons, ou devrions voyager. C'est pourquoi chacun de nous doit être sans souillure dans la voie, et chaque pas doit être de même espèce et de même nature, séparé de tout ce qui le souille et le pollue, afin qu'il tende à rapprocher l'âme de son repos. Beaucoup de voyageurs ont atteint ce saint repos par ce saint voyage, et beaucoup sont encore dans l'espérance de l'atteindre. Mais maintenant, ceux qui sont pleins d'espérance d'atteindre ce repos, leurs pas et leurs démarches ne sont pas de même nature ni de même espèce, ils ne sont pas saints et purs, ils ne sont pas sans souillure. Ceux-là n'ont pas le visage tourné vers Sion, bien que le visage de leur profession semble se tenir dans cette direction. Mais le Seigneur regarde le cœur de chacun, et il sait de quel côté le cœur se tient. Ceux dont le cœur est véritablement tourné vers le Seigneur ont la marque de la sainteté dans leur regard, et la marque de la pureté et de la justice dans toute leur entreprise, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'accès à ce repos divin sinon par une voie et un voyage saint. C'est pourquoi leur confiance et leur appui reposent uniquement sur le Seigneur, qui doit les garder dans toute leur voie. Car quand bien même ils seraient clairement convaincus que la sainteté et la justice sont leur devoir et la voie par laquelle ils peuvent atteindre le royaume de Dieu. Car les multiples impuretés et obstacles qui se trouvent sur notre route, entre notre sortie du pays d'Égypte, la servitude de la corruption, et notre entrée dans le royaume de Dieu, sont trop puissants et trop grands pour que quiconque puisse les surmonter par sa connaissance et sa force. Les enfants d'Israël auraient tout aussi bien pu traverser la mer Rouge sans l'aide de Dieu, que le voyageur chrétien peut traverser les nombreuses difficultés et les nombreux empêchements qu'il doit rencontrer en chemin, sans l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. Mes amis, c'est une peine et un labeur qui pèsent en ce temps sur mon esprit, que tous ceux que Dieu a si remarquablement bénis par la connaissance de la vérité, afin que vous puissiez voir votre voie et connaître et comprendre très clairement que votre voie mène à la vie éternelle, que vous tous et chacun de vous, dans vos réunions particulières, ayez une dépendance envers ce qui peut vous aider sur votre voie. Car j'en ai vu trop qui ont eu une mauvaise dépendance après avoir été justement convaincus et après avoir eu une vraie connaissance de leur voie dans laquelle ils devaient marcher. Ils se sont trop fiés à des ouvertures et des vues qu'ils avaient reçues auparavant. Ils ont cru leur montagne si assurée, et que leurs pieds avaient cessé de glisser, qu'il a grandi en eux un état de présomption, ils ont pensé qu'ils ne se détourneraient jamais, et n'ont pas eu l'égard dû au renouvellement de la puissance divine de Dieu dans leurs âmes, dont les enfants de Dieu ont toujours besoin. Ils ont, si je puis dire, oublié ce que notre Seigneur a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ils ont condamné cette doctrine dans leur esprit, et ont pensé qu'ils pouvaient faire quelque chose, qu'ils pouvaient résister à la tentation, qu'ils pouvaient accomplir quelque œuvre pour Dieu et quelque service pour Dieu sans l'assistance divine de cette puissance qui les avait engendrés, et hélas! Le moindre mal qu'ils aient subi, c'est qu'ils se sont précipités dans le mal, qu'ils ont souillé leur voie et sont tombés dans les tentations, bien qu'il ait plu au Seigneur, dont la miséricorde est infinie, de les tirer bien des fois à nouveau du piège dans lequel ils étaient tombés, de les reprendre, de les laver, de les nettoyer, de les purifier, et de poser leurs pieds en un lieu sûr. C'était plus qu'il ne méritait, mais sa miséricorde, sa bonté et sa tendresse s'étendent sur toutes ses œuvres. Il l'a fait pour plus d'un, et non seulement une fois, mais bien des fois, c'est un dangereux hasard. Il aurait mieux valu qu'une telle personne ne soit jamais tombée, ou que ses pas n'aient jamais glissé hors des voies du Seigneur, plutôt que, après être tombé, d'être renouvelé à nouveau par la repentance. Cela a causé un jugement sévère, la condamnation et l'anxiété d'esprit, et ils ont donné à leur vieil ennemi un avantage pour leur chuchoter à l'oreille « Tu as perdu ton terrain, tes péchés te submergent, et tu ne trouveras jamais la repentance. » Voilà les paroles du méchant, qui cherche une occasion contre nous, et par notre négligence et notre manque de vigilance, nous lui mettons un avantage en main. Or, puisque vous savez qu'il est vigilant et cherche une occasion pour vous détourner de votre voie avant que vous n'en atteigniez le terme, vous devez être vigilant afin de lui ôter toute occasion. Mais certains diront, comment puis-je ôter à l'ennemi ses occasions et ses avantages? Je réponds, la voie vous a souvent été indiquée, et j'ose dire que la plupart d'entre vous l'ont essayé et l'ont trouvé vrai, tant que vous êtes demeuré dans un état et une posture de vigilance, et que vos esprits ont été exercés par la grâce de Dieu, par laquelle vous avez été convaincu de votre péché, et par laquelle votre devoir vous a été manifesté, vous n'avez donné aucune occasion à l'ennemi de vos âmes. La vérité vous a préservé en laquelle vous aviez confiance, et en laquelle vous espériez et attendiez sa vertu et sa puissance. Avez-vous alors trouvé un manque de capacité? L'ennemi a-t-il alors prévalu? Il ne cessait pas de tenter quand vous étiez dans l'état le plus vigilant d'un chrétien? Le diable ne cessait pas alors de vous tenter, mais vous trouviez en vous une puissance qui lui résistait et disait « Arrière de moi, Satan ! » Il serait peut-être utile de se concentrer sur l'obéissance. Car par l'obéissance, nous recevons la grâce de tenir ferme, par l'obéissance aux commandements et aux compréhensions que nous avons reçues du Seigneur. Certes, nous devons être vigilants, mais nous devons aussi nous rappeler ce à quoi nous sommes tenus de renoncer et de nous détourner. Tout ce que le Seigneur nous a commandé, nous sommes capables de le faire, car il nous donne sa puissance pour accomplir ses commandements. Tout ce qu'il nous ordonne de renier, il nous donne la puissance de le renier, mais nous devons être disposés à faire notre part en nous détournant. Il fait 90%, nous faisons 10%, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il fasse 100%. Nous sommes tenus responsables de ce qu'il nous a ordonné de renier, nous sommes tenus responsables d'observer ses enseignements, nous sommes tenus responsables d'obéir à ses paroles, nous sommes tenus responsables de revoir périodiquement ses commandements et de continuer à nous repentir. Si nous faisons cela, nous ne tomberons pas dans la tentation, car sa puissance nous transformera. La même grâce qui nous accuse de péché ôtera le péché de notre cœur, pourvu que nous nous repentions vraiment de ce péché, et pourvu que nous continuions à nous repentir, finalement même le désir de ce péché est ôté de nos cœurs par la grâce, la miséricorde, la bonté, le péché est purgé de nous. Et si nous restons vigilants, ce péché reste hors de nos cœurs. Tant que vous êtes en sentinelle, autant que vous gardez votre esprit fixé sur la puissance divine, vous êtes en un lieu sûr, et quiconque s'en détourne subit un grand dommage et préjudice, et s'il est jamais rétabli, ce sera avec perte et dommage, et un dur exercice, et s'il n'est pas rétabli, il est perdu pour toute l'éternité. Alors il eût mieux valu pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que l'ayant connue, se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Et alors ils se dirent en eux-mêmes, « Cela doit être la voie. Messieurs, ces choses concernent votre bien-être éternel, je vous parle comme un peuple que Dieu a abondamment aimé, et cela a été bien au-delà de toute déficience. Il vous a fait connaître ses voies, le Seigneur peut dire, à votre sujet dans cette ville, comme autrefois, qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne que je n'ai fait ? Ainsi peut-il dire à votre sujet, qu'aurais-je pu faire de plus pour en faire un peuple adulte, un peuple saint, un peuple entier, afin qu'ils portent mon nom et marchent devant moi dans la sainteté et la justice tous les jours de leur vie, qu'aurait-on dû faire de plus pour eux ? Mais c'est un exercice pour nous, que Dieu a béni et établi comme sentinelle, d'observer et de voir l'état de son peuple, et de sentir et porter les fardeaux qui doivent être portés, et c'est un grand fardeau que, après tout ce que Dieu a fait, et tout ce que nous faisons entre les mains de Dieu, tout ce qui est nécessaire au bien du peuple, il y en a qui se détournent et souillent leur voix, et nous témoignons au nom du Seigneur que quiconque marche dans une voie souillée ne viendra jamais à un repos sans souillure, ainsi si vous n'atteignez pas ce repos sans souillure. Puisque la conduite sainte du peuple de Dieu est l'effet de l'action de sa propre puissance et de son esprit. Voici venir le repos, paré au moyen d'un médiateur, Jésus-Christ le Juste, qui est le médiateur entre Dieu et l'homme, et le guide de tout son peuple sur la voie de la sainteté et de la justice, qu'il a rendu manifeste à ceux qui croient et obéissent à la puissance. Et il a acquis le salut éternel pour tous ceux qui croient et obéissent à l'Évangile. Mais les transgresseurs n'obéissent pas à l'Évangile, l'Esprit de Christ ne vous conduit pas à la transgression, et la puissance et la lumière qui viennent de Christ ne vous conduisent pas à l'orgueil, à la vanité, à l'envie et à l'amertume. Là où l'on est conduit dans ces choses, il y a un autre esprit, et cet autre esprit a une autre tendance, il conduit à la colère de Dieu. Et mes amis, voilà ce que mon âme désire de votre part, et c'est pour votre bien et votre avantage. Il est de mon devoir de décharger ma conscience et de parler clairement selon que le Seigneur me donnera l'expression, pour vous avertir de demeurer dans la vérité, car si vous n'êtes pas sauvés, mais que vous vous détourniez pour suivre les convoitises de vos propres cœurs, votre orgueil, la vanité du monde et ses convoitises, vous pourrez vous en prendre à vous-même, et votre iniquité sera votre ruine. Nous qui nous sommes donnés à Dieu pour l'amour de vous et pour l'amour des Églises, nous disons ces choses que nous avons apprises de Dieu, et nous vous pressons instamment, vous qui êtes convaincus, de marcher dans la vérité que vous avez crue. Il n'y a pas grand besoin de davantage de connaissances, ni de la vision des choses célestes et divines, car beaucoup d'entre vous ont vu plus des choses de Dieu que vous n'en avez jamais parcourues et atteint. Je voudrais à Dieu que chacun de vous qui êtes convaincus s'élève au trésor de connaissances que vous avez reçues. Oh, que vous répondiez à la puissance du Seigneur, dans l'ouverture et la révélation de sa pensée et de sa volonté concernant votre voyage et les choses qui appartiennent à sa paix éternelle, afin que vos pas en soient dirigés. Si vous marchez dans cette voie sans souillure, vous pouvez vous coucher le soir et vous lever le matin avec paix et dans la faveur du Seigneur et avoir, dans sa lumière, la réponse d'une bonne conscience. Le moyen qui doit nous aider et nous conduire dans cette voie doit être cette conversation familière que l'âme doit avoir avec quelque chose de plus grand qu'elle-même, cette conversation familière que l'âme doit avoir avec la puissance divine, avec cette manifestation de la lumière et de la grâce divine que, par Jésus-Christ, Dieu vous a donnée. Car si un homme estime et prise la vérité autant qu'il veut, et souffre autant qu'il veut pour elle, et aime autant qu'il veut le ministre, s'il ne garde pas une conversation familière avec la vérité, malgré toute sa profession d'amour pour les vérités de l'Évangile et pour ceux qui les prêchent, il la déshonorera. Bien qu'il professe et dise « je t'aime », bien qu'il ait beaucoup souffert dans la voie, pourtant s'il n'aime pas la vérité dans son propre cœur et ne désire pas en sentir l'excellence et la vertu, cet homme déshonorera certainement la vérité et attristera le Saint-Esprit de Dieu. Nous vous avertissons de prendre garde à votre voie et à vos pas dans votre marche chrétienne, afin que vous en veniez à avoir une entrée abondante dans le royaume de Dieu. Priez Dieu afin que l'œuvre de régénération s'accomplisse en vous, afin que vous naissiez dans une autre semence et que vous participiez à la nature divine. Alors, quand bien même le diable vous assaillirait, il ne pourra vous vaincre, il ne trouvera rien en vous par quoi vous livrer entre ses mains. Lorsque ce changement est opéré, et lorsque Dieu a fait une transformation, vous tirant de l'amour du monde et de l'amour des choses terrestres, et plaçant vos affections en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Désormais vous pouvez dire, voici qu'une tentation survient par tel instrument, et par tel autre instrument, et le diable place devant moi des choses qu'il voudrait que je fasse, mais je n'y ai aucune inclination, je n'ai nul désir de têter aux mamelles du monde, mais mon esprit est tourné vers ceci, parvenir à connaître Dieu, qui sera pour moi un secours présent, et foulera Satan sous mes pieds. Vous avez besoin d'un soin et d'une vigilance constant, et de veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Il n'est pas si facile, pour un homme ou une femme tant qu'ils sont dans ce monde, de faire quoi que ce soit sans péché, mais Dieu vous a appelé à une sainte profession, laquelle est que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour faire toute chose sans péché. Car que vous mangiez ou buviez, ou quoi que vous fassiez, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. C'est cet esprit que nous voudrions voir en vous, et nous voudrions que vous tous qui avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchiez en lui comme vous l'avez reçu. Alors vous serez gardés sans tache dans la voie et délivrés de la tentation. Pour cela, vous devez demeurer dans le calme, attendant le Seigneur, afin de faire connaissance avec lui de jour en jour. Vous êtes dans le monde, mais vous ne devez pas être du monde. La prière de notre Seigneur Jésus-Christ à son Père céleste pour ses disciples n'était pas qu'il les ôta du monde, mais qu'il les garda du mal. Les marchands, les artisans et les boutiquiers ont toujours quelque chose à faire dans le monde, mais ils devraient prier ardemment d'être gardés du mal du monde. Il n'y a rien qui se fasse dans le monde sans qu'il y ait du mal en cela, et nous en serons vaincus si nous ne veillons pas. Dans la conduite d'une famille, il se présente des occasions et des provocations qui donnent lieu à la passion et à la fureur, bien des occasions se présentent aux hommes et aux femmes, mais nous ne devons pas nous laisser emporter ni vaincre. Notre profession nous oblige à ce que, lorsqu'un enfant ou un serviteur provoque, nous ne nous conduisions pas d'une manière inconvenante et indigne de notre sainte profession, car il n'est pas en leur pouvoir, ni même en celui du diable, d'allumer votre courrouze et votre colère jusqu'à vous couvrir de honte. Si vous veillez et attendez le Seigneur, il vous donnera sagesse et force pour résister à toutes les tentations quelles qu'elles soient et régler votre conduite selon la volonté de Dieu, et comme il convient à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le commerce, l'achat et la vente, il y a des pièges, et il y a du mal où nous pouvons tomber. Mais voici notre réconfort et notre joie. Il n'y a aucune contrainte, nous ne pouvons être forcés de pécher. Le diable ne peut que placer une tentation devant moi. Si tu veux mentir, user d'équivoque, dissimuler, voici un avantage pour toi. Mais le diable, avec toute sa subtilité, sa puissance et ses attraits, ne peut pas dire « Tu tomberas dans ce péché et tu seras vaincu par cette tentation, car bien que de nous-mêmes nous ne puissions. » Quand nous avons acheté et vendu, nous pouvons regarder en arrière ce que nous avons fait avec un esprit pur et une conscience nette devant Dieu, et nous pouvons en sortir vainqueurs, et plus que vainqueurs, sur les tentations par Jésus-Christ qui nous a aimés. Plus un chrétien se garde sans tache, et plus il est vigilant dans sa marche, plus il peut aller de jour en jour, voir les pièges du diable, qui se cachent dans cette vanité-ci, et dans telle autre vanité et tentation, et pourtant y échapper. Je voudrais pouvoir dire de certains d'entre vous que, lorsque le diable vous tendait un piège, vous n'y courriez pas en le voyant. J'en ai connu, qui avaient assez d'intelligence pour n'avoir nul besoin qu'on leur dit où se trouve le piège du diable, Et pourtant il en a été ainsi, le diable et les convoitises de leur propre cœur se sont accordés, et ils ont couru dans le piège. Cela vient de l'ancienne confédération que les hommes ont eue avec les ennemis de Dieu. « Vous êtes mes amis, a dit Christ, si vous faites tout ce que je vous commande. Si vous êtes les amis de Christ, vous serez ses sujets et lui obéirez. Lorsqu'il leur montre un piège, ils s'en tiendront éloignés. Voilà la preuve d'un vrai chrétien qu'il restera fidèle au temps de l'épreuve et qu'il se confiera en cette puissance divine qui le garde hors du piège. » Encore une chose que je voudrais dire au sujet de la communion divine que vous avez avec le Christ Jésus. Elle consiste dans la sainteté de vie et de conduite et dans l'exercice d'une bonne conscience envers Dieu et envers l'homme. Il est vain de me dire que vous marcherez dans l'unité avec la vérité. Si vous n'avez pas l'unité avec la vérité dans vos propres cœurs, vous ne pouvez pas recevoir le Seigneur, ni tromper longtemps non plus son peuple. Voici la communion dans laquelle vous devez vivre tous vos jours, vivre en communion avec le peuple de Dieu et dans la communion des saints. Les saints peuvent-ils avoir communion en autre chose que la sainteté? Et la sainteté est une chose bénie, sacrée, elle convient à la maison de Dieu pour toujours. Ceux qui sont saints sont sanctifiés et rendus saints, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous saints, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler Brother Hebdo 11. Ceux qui sont sanctifiés sont devenus saints, ils produisent les fruits de la sainteté et de la sanctification, et ils sont entrés en communion dans l'Esprit avec Dieu et les uns avec les autres. Toute branche dans un arbre, a dit Christ, qui ne porte pas de fruits, il l'ôte, mais toute branche qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'elle porte plus de fruits. La branche qui ne porte pas de fruits est jetée au feu et brûlée. Il en est qui porte du fruit, mais c'est du fruit pour la chair et pour le mauvais, et j'espère que vous n'êtes pas de ce nombre. Cela se sépare de la vie du vrai cep, ils n'ont aucune communion ni véritable appartenance à l'Église de Christ, tant qu'ils marchent comme des captifs du diable et du péché. Cela sont du monde et non de l'Église. Si vous voulez avoir communion avec l'Église, ne pensez pas l'avoir par une conformité extérieure. Ne pensez pas que cela maintiendra votre communion avec Christ sans une vie de sainteté et de justice intérieure, car le jour où vous rompez avec la vérité en vous-même, vous rompez votre communion avec l'Église de Dieu, vous rompez votre paix avec Dieu, et vous ne pouvez en aucune manière être rétabli dans la faveur de Dieu, sinon par un repentir sincère, car le mystère de la foi doit être gardé dans une conscience pure. Comment ma conscience est-elle souillée? Si je ne fais tort ni à celui-ci ni à celle-là, certains peuvent retenir le mystère de la foi, dans la mesure où il consiste en une profession, ils peuvent le professer et ils le prêchent, mais ils n'ont pas retenu le mystère de la foi en Christ de manière à recevoir de lui la vie, la vertu et la consolation. Vous avez peut-être acquis la connaissance de l'histoire des mots et des doctrines, mais dès que vous souillez votre conscience, en faisant des choses mauvaises, et que vous vous écartez du principe de la grâce, vous faites naufrage quant à la foi. Mais, mes amis, puisque vous avez à cœur de continuer et de demeurer dans la foi, et dans ce pèlerinage et ce voyage céleste, je veux vous donner ceci comme une certitude, car cela vous fera du bien même quand ma tête reposera dans la poussière. Le moyen de persévérer dans l'Église de Dieu et la communion des saints, et de conserver votre paix avec Dieu, c'est de garder un commerce familier astérisque avec la vérité dans vos propres âmes. Elle vous empêchera de tomber, et vous conduira et vous guidera dans votre voie, dans votre marche et votre voyage vers le ciel. Comme la mère, quand l'enfant crie après elle mais ne peut marcher, le prend par la main et le conduit, ainsi si vous demeurez attaché à la vérité, elle peut vous conduire à travers toutes les difficultés, dans les grandes affaires comme dans les petites, et vous délivrer des pièges et des tentations, et lorsque vous êtes assailli, elle peut vous en tirer indemne. Quant à la communion avec Dieu, et la communion avec les saints et le peuple de Dieu, elle consiste en cette paix et cette pureté, et dans le maintien d'une disposition d'esprit sainte dans votre voyage céleste, dans la voie sans tache, qui vous conduira finalement au repos éternel sans tache qui demeure pour le peuple de Dieu. Astérisque un commerce familier avec la vérité, c'est attendre Dieu, écouter en silence ses paroles, veiller à ses révélations, entendre ses paroles, obéir à tout ce qui vous est commandé, observer ses enseignements et retenir ses paroles pour toujours. Sermon Hicksville, l'aube du jour de grâce et de salut prononcé par Stephen Crisp à Gracious Street, le 2 avril 1691. Mes amis, vous ne pouvez ignorer, ni ne pas sentir, qu'un jour d'évangile, un jour de grâce et de salut s'est levé sur vous, et que sa lumière a percé bien des nuages de ténèbres à travers lesquels, parfois, vous ne pouviez voir. C'est pour nous une miséricorde de Dieu inestimable et inexprimable que la lumière de l'Évangile du salut brille sur un peuple qui, sans elle, devrait être misérable. Il y a eu un jour très sombre et nuageux sur nos ancêtres, et aussi sur nous, au jour de notre ignorance. Nous sommes enclins à errer çà et là, et à être détournés par le vent des doctrines des hommes, de sorte que nous ne pouvions trouver ni repos, ni demeure, ni établissement pour nos âmes, en vue de la vie éternelle. Et il y en a beaucoup qui ont crié à Dieu de vouloir révéler sa voie et la leur faire connaître, et ils ont été prêts à promettre au Seigneur que, s'ils pouvaient une fois parvenir à une certitude quant au chemin, ils y marcheraient. À de tels, le Seigneur a prêté l'oreille et leur a répondu, et en répondant aux cris de l'âme, il a rapproché le salut et a révélé la puissance par laquelle il l'accomplirait, dans chaque âme particulière qui reçoit l'évangile de son Fils. Ksip parle de l'évangile comme d'une expérience individuelle où Dieu montre sa puissance et révèle le goût de ce que l'on ressent dans le salut. C'est pourquoi l'évangile est un mystère qui ne peut être révélé que par une révélation de Dieu. Ce qui n'a pas été révélé est un mystère jusqu'à ce que cela soit révélé. La lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, doit luire en eux. 2 Cor 4:4. Mais maintenant, amis, vous qui avez conscience de cette visitation bénie et glorieuse de son jour d'évangile, dans lequel le salut est rendu proche, il est nécessaire que chacun examine son propre cœur. A-t-il réellement reçu l'évangile? A-t-il reçu et embrassé la grande munificence et les bénédictions inexprimables de l'évangile, par lesquelles le Seigneur Dieu de vie nous a visités, ou l'a-t-il rejeté? Car bien que ce soit notre bonheur de connaître la visitation de la vie, il ne s'ensuit pas que tous ceux qui sont visités en deviendront héritiers, car il y en a beaucoup qui n'atteignent pas le but à cause de leur incrédulité. Il y en a beaucoup qui ont reçu l'Évangile, qui désobéissent toutefois à l'Évangile de Christ, et ainsi n'ont pas par lui la vie éternelle. Lorsque les gens en viennent à cet examen sérieux d'eux-mêmes sur ce point, alors la lumière et la grâce, qui viennent de Christ vers chacun de nous, aussi bien vers celui qui l'a rejeté que vers celui qui la reçoit, leur feront connaître leur état et leurs conditions par rapport à l'Évangile de Christ. Car il y en a un très grand nombre qui, par l'éloignement de leur esprit de la lumière de Jésus-Christ, sont enclins à se tromper sur leur état, et à porter sur eux-mêmes et sur leur état intérieur un jugement meilleur que ce qu'il sera réellement au jour où le Seigneur les sondera et les éprouvera. Mais ceux qui portent un jugement sur eux-mêmes, d'après les ouvertures, et les découvertes qu'ils reçoivent par la lumière de Jésus-Christ, car c'est ainsi que nous devons faire en cette affaire grave, jugent leur état et leurs conditions selon le témoignage que l'Esprit de Dieu rend à leur esprit, et j'espère que vous direz tous que c'est là la voie la plus sûre. Car si nous nous comparons les uns aux autres et disons « Je suis meilleur que toi, et cet homme est meilleur que moi », alors nous sommes exposés à beaucoup d'erreurs, là où il ne devrait y en avoir aucune. Mais si nous venons à mesurer et à déterminer notre état et condition présent par le témoignage de l'Esprit de Dieu, rendant témoignage à notre esprit, nous avons là un fondement sur lequel établir un jugement infaillible et certain. Et ceux qui obéissent à l'Évangile de Christ sont capables de porter un jugement saint sur leur état, parce qu'ils sont rendus participants, par Christ, de cette grâce, de cette lumière et de cette vérité auxquelles ils obéissent, et qu'ils sont amenés à une certaine connaissance et compréhension de leur devoir, qu'ils l'accomplissent ou non. Et cette connaissance et cette compréhension que Dieu leur a donnée les rendent capables de porter un jugement juste sur leur propre état. Ils n'appelleront pas bon un état qui est mauvais, et ils n'appelleront pas mauvais un état qui est bon. Ils savent qu'il est bon par le principe de vérité dans leur jugement. Ainsi, puisqu'il y a tant d'incertitudes dans le monde, et que les hommes sont si enclins à adopter une manière incertaine de juger et de déterminer, même en ce qui concerne leur âme, puisqu'il y a chez les gens plus de propension à s'attacher à des incertitudes dans les jugements touchant leur âme que dans ce qui concerne leur corps, puisqu'ils y sont si exposés, il ne peut faire de mal à aucun de nous de nous exhorter les uns les autres, de nous inciter et de nous encourager à calculer notre état d'après quelque chose qui ne trompe pas. Il y a une multitude de gens trompés dans ce pays comme dans d'autres, nous n'aurons pas besoin d'aller en terre étrangère pour trouver des gens trompés et abusés. Il ne sera pas mal de dire que l'ivrogne, le blasphémateur, le menteur, l'oppresseur, l'orgueilleux et le malveillant sont trompés. S'ils n'étaient pas trompés, ils ne seraient jamais vaincus par le mauvais, l'auteur de tout mal. Il les a trompés en leur faisant penser qu'ils pouvaient continuer dans ces choses et se crier paix, paix les uns aux autres et dans leur propre âme. C'est une grande illusion, et le diable est le grand illusionneur par lequel ils sont abusés. Et cela vaudrait la peine de découvrir ce qui peut amener un homme à se croire dans un état heureux, et à espérer jouir de la vie éternelle avec Dieu et Christ, alors même qu'il persévère dans le péché et l'iniquité, cela vaudrait la peine de découvrir l'illusion. Rien n'est plus propre à tourner chacun vers la grâce de Dieu que de sonder son propre cœur et d'éprouver ses voies. C'est ce qui découvrira leurs pensées et les leur fera connaître. C'est la grâce de Dieu et son don aux hommes alors qu'ils sont encore pécheurs et désobéissants. Il ne retire pas sa grâce, mais il donne sa grâce, sa lumière et sa vérité, même aux rebelles. Il fait des dons aux hommes, même aux rebelles, afin d'avoir une place et une demeure parmi eux, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui sonde le cœur, éprouve les reins et juge toute injustice. Si Dieu vous a donné tant de grâce afin d'avoir une demeure dans votre cœur, cela ne devrait-il pas vous retenir de péché, afin que le diable, par ses tentations, ne vous souille pas et ne vous rende pas impropre au royaume de Dieu? Quand le Seigneur vient sonder le cœur, c'est en vue de le purifier et d'ôter l'iniquité et le péché qui vous rendraient impropre à son royaume. C'est une voie meilleure et plus excellente que de vivre selon la chair et d'en accomplir les convoitises. Quand bien même les gens vivraient autant qu'ils voudraient selon leur volonté corrompue, dans l'orgueil, la débauche, la licence et la vanité de leur esprit, ils ne trouveraient pas autant de vraie satisfaction et de délices qu'en menant une vie sainte, en vivant dans la crainte de Dieu, en évitant le péché, et en se gardant des tentations et des pièges du diable. C'est une voie plus excellente, et c'est notre œuvre et notre tâche de déclarer aux gens cette voie plus excellente que tous, tôt ou tard, reconnaîtront. C'est pénible, diront certains, cela diminuera mon plaisir et mes délices dans le monde, et ruinera mon intérêt séculier. Si ce n'était pour cette raison, ils concéderaient qu'il vaut mieux vivre une vie sainte et dans la crainte de Dieu, que vivre au service du diable, et leur intérêt charnel se dresse sur le chemin et fait pencher la balance. Mais c'est parce que vous vous y joignez, autrement le diable et toutes les puissances de l'enfer ne pourraient pas la faire pencher. Si les gens considéraient ces choses sérieusement, ils diraient, il vaut mieux servir Dieu, qui les a faits et leur a donné la vie, le souffle et l'être, que celui qui voudrait les détruire. Et alors, quand ils rencontreraient les plaisirs et les délices du monde que le diable place devant eux, ils ne feraient jamais pencher la balance contre une raison divine. Si vous y donnez votre cœur et y réfléchissez sérieusement, cela fera pencher la balance contre toutes les tentations de vivre dans le péché, le plaisir et la gaieté. Si seulement vous vous joignez à cette raison divine, qui vous dit que ces plaisirs et jouissances charnelles ne sont pas nécessaires à votre âme, mais qu'il est nécessaire de vivre une vie sainte et céleste, et de servir le Seigneur qui vous a donné la vie, le souffle et toutes choses, et qui vous a promis de nombreuses préservations. Si cela veut bien se joindre à la raison divine, et prêter l'oreille à ce qui ouvre la vérité dans votre propre cœur, tout ce que le diable peut faire ne pourra pas vous faire le servir, car le diable n'a aucune contrainte, aucun pouvoir pour vous forcer à commettre le péché. Il ne peut pas faire qu'un homme pratique la méchanceté contre sa volonté, il lui faut obscurcir l'entendement, agir sur la volonté, et attirer et séduire les affections par les choses terrestres. Ainsi vous ne pouvez pas être forcé par le diable, contre votre volonté, à céder à ses tentations et à commettre quelques péchés, mais vous pouvez dire « je le ferai ». Je confesse que, lorsque l'entendement est acheté et que la volonté est attirée et séduite par les tentations du diable, il n'y a pas moyen d'y résister. Mais d'un autre côté, si les hommes se livraient à la puissance de Dieu, ils auraient une assistance divine, et en se joignant à cette puissance, ils seraient plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'être encouragés à demeurer dans la voie du Seigneur et à connaître la puissance de Dieu, qui vous préservera et vous donnera la victoire sur toutes les tentations et les assauts du diable. Sans cette puissance, vous ne pouvez vaincre, mais si vous avez l'assistance de cette puissance, rien ne vous sera trop difficile. Quand vous êtes dans la détresse et dans une condition sans secours, vous êtes parfois prêt à vous écrier « Je ne vaincrai pas mes ennemis spirituels, je n'obtiendrai jamais la victoire sur le péché et le monde, la chair et le diable, je ne serai jamais capable de résister à ces tentations, elles prévaudront sur moi tous les jours de ma vie. » Il n'est pas étonnant que vous en veniez à cette conclusion quand vous vous êtes séparé de votre vérité et de votre dépendance à l'égard de cette puissance qui est capable de vaincre le diable et de le confondre dans vos pensées, vos paroles et vos actes. Vous pouvez être prêt à dire « Hélas ! De moi-même je ne peux rien, je ne suis pas capable de moi-même, ne serait-ce que de penser une bonne pensée, et pourtant par l'assistance divine, il m'arrive bien souvent de penser de bonnes pensées. En moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'habite rien de bon. Non pas dans ma chair prise abstraitement, séparée de la puissance de Dieu et de l'assistance divine qui m'est promise. Dans ma chair n'habite rien de bon. Mais si vous me considérez comme quelqu'un qui a la foi en Christ le médiateur, cette foi embrasse l'offre de l'amour de Dieu dans le Rédempteur. Et lorsque j'ai cette foi, une bonne chose habite en moi, et de cette bonne chose qui habite en moi procède de bonnes paroles et de bonnes actions. Alors vous en venez à connaître une puissance plus grande que la vôtre, et si vous vous y confiez, vous pourrez résister aux tentations. Quand vous êtes tenté à quelque péché, vous serez non seulement capable de résister à la tentation, mais encore de la vaincre, et d'être plus que vainqueur dans votre combat spirituel. Cette confiance et cet appui sur la puissance de Dieu, c'est ce que nous appelons la foi, et cette foi est l'opération de Dieu. Pour parler en termes simples, Dieu opérera sur votre esprit et vous fera connaître que c'est sa puissance, sa lumière, sa vérité et sa grâce par lesquelles il veut vous sauver. Et après que Dieu aura ainsi agi et vous aura ouvert les choses de cette manière, il vous incombe alors d'y croire, d'y mettre votre confiance et votre assurance afin d'être délivré. Mais bien que la foi me soit offerte, elle ne m'est pas imposée. Dieu a offert la foi à tous les hommes, mais il ne l'impose à aucun. Tous ont une occasion qui leur est offerte, s'ils veulent bien s'y joindre, la foi peut être opérée en eux, et ils peuvent être rendus aptes et préparés pour le royaume de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont convaincus de la vérité de la doctrine que nous leur prêchons, mais ils n'entrent pas dans la puissance de la vérité. Ils nous entendront prêcher de la puissance de la vérité, et ils entendront ce que cet homme a dit et ce que tel autre homme a dit, et cela leur suffira, afin qu'ils puissent parler de religion et faire profession. Mais ils ne recherchent pas cette puissance qui devrait leur permettre d'accomplir leur propre salut. Ces personnes croissent en connaissance, mais elles ne croissent pas en grâce. Elles embrassent la vérité aussi loin que la doctrine et les mots peuvent aller. Elles l'ont professée et elles ont souffert l'opprobre pour elles, et pourtant elles n'ont pas reçu la vérité dans l'amour qu'elles méritent. Elles ne peuvent atteindre sa puissance. Elles se glorifient de leur connaissance et de leur compréhension, mais elles ne viennent pas à ce qui les sanctifie. Elles ne sont pas capables de résister au diable et de tenir contre ses tentations. Quand une tentation vient, elles s'y joignent, mais elles ne peuvent y résister. Elles viennent à la connaissance de la vérité en parole, mais elles ne viennent pas à la connaissance de sa puissance dans leur cœur et leur esprit, de manière à devenir des vases préparés pour l'honneur de Dieu. Dieu est plus déshonoré par elles que par ceux qui n'ont jamais professé son nom. Elles tombent dans la tentation du diable et ne discernent jamais l'opération de la puissance de Dieu dans leur propre cœur. Deuxièmement, il y a une autre erreur aussi grande que celle-ci. Il y en a beaucoup qui, lorsque la puissance du Seigneur a opéré dans leur cœur, et qu'ils ont eu la vérité ouverte dans sa puissance, n'y ont pourtant pas cru. La foi n'a pas été opérée dans leur cœur, ils ne s'y sont pas confiés, ni ne se sont appuyés sur cette puissance. Ainsi ils sont faibles et chétifs, ils ont peu de foi, presque point. Quelques connaissances qu'ils aient, combien facilement le diable peut-il les tenter au péché s'ils n'ont pas la foi? C'est la victoire, dit l'apôtre, qui vainque le monde, c'est votre foi. Ce n'est pas ma victoire que de voir les subtilités et les ruses de Satan et de savoir beaucoup, mais ce qui est ma victoire, c'est ma foi. Ma confiance est en la puissance de Dieu, et mon appui est en celui qui est Dieu, plus puissant que tous les plus fins des hommes et des démons, ce Dieu qui connaît mon cœur. Si je lui suis fidèle et que je m'appuie sur lui par la foi, je résisterai au diable et en tenant ferme contre ses tentations, j'obtiendrai la victoire sur elle. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole qui est près de vous, dans votre cœur et dans votre bouche, afin que vous puissiez lui obéir. C'est la parole de foi que nous prêchons. Vous devez obéir aux commandements que vous entendez pour que votre foi ne soit pas une simple profession des lèvres. Le père de la foi fut Abraham, qui obéit à la voix de Dieu. Sa foi fut assez forte pour qu'il obéisse à Dieu, pour quitter sa patrie, se circoncire lui-même et tous les mâles de sa famille, et offrir son fils en sacrifice, ce qui fut rétracté. Abraham n'a pas seulement dit « Oui, Dieu m'a parlé, et je crois en Dieu, les choses qu'il m'a dit de faire sont irréalistes pour moi, mais je sais certainement et je crois qu'il y a un Dieu ». Entendre et obéir, c'est votre foi, une telle foi de la puissance. Entendre sans obéir, c'est le doute, le manque de foi, donc sans aucune puissance de Dieu libérée. Sans obéissance, il n'y a pas de salut, sans obéissance, il n'y a pas de progrès spirituel. Avec l'obéissance, il y a puissance, salut, justice, union, translation, pureté, perfection et sainteté. L'obéissance au commandement que vous entendez vous être adressé est la clé. Puissance, vous pouvez l'avoir par l'Évangile, mais alors vous devez être fidèle à sa puissance en vous-même. Car je distingue entre l'Évangile, en tant qu'il est une doctrine et une parole prêchée, et une puissance invisible et divine agissant sur les hommes par la prédication de l'Évangile. Vous entendrez tous l'Évangile prêché, quand bien même vous seriez orgueilleux et présomptueux, et vous direz que c'est vrai. Mais vous ne pourrez jamais parvenir à la connaissance salvatrice de l'Évangile lui-même, tant que vous ne le trouverez pas opérant intérieurement. Nous ne prétendons pas avoir le pouvoir d'ouvrir les cœurs des hommes, comme Dieu a ouvert le cœur de Lydie, sinon lorsque les gens viennent attendre Dieu avec un esprit sérieux et religieux. Vous trouverez alors la puissance de la parole opérant efficacement en vous, et ainsi l'Évangile deviendra pour votre salut la puissance de Dieu. Telle est et telle sera ma prière pour toutes les assemblées religieuses, que le Seigneur veuille leur enseigner par sa parole invisible et susciter en eux des désirs vivants vers lui-même, et les amener à un effet de sainteté et de justice, afin qu'il honore l'Évangile de Christ en vivant des vies évangéliques, car faute de cela, quel déshonneur les hommes vont apporter à Dieu et quel opprobre sur l'Évangile.
Oh.
Si les gens venaient entendre la parole prêchée avec le désir d'en profiter, et disaient « Seigneur, fais-moi du bien aujourd'hui, accorde-moi une visite puissante et rafraîchissante en ce moment, donne-moi une expérience vivante de ta toute-puissance agissant sur mon cœur, afin que je ne sois pas conduit par la parole de cet homme ou l'opinion de tel autre, car s'il se trompe, je me tromperai. Mais si je fonde ma foi sur ce que Dieu, dans sa parole, révèle en te parlant ou en te le montrant dans ton cœur tandis que tu l'attends à moi, je saurai infailliblement ce que je dois croire et pratiquer, et je recevrai de Dieu quelque bonne chose, et je saurai quelle est la volonté bonne et agréable de Dieu. Je trouverai qu'il y a dans l'Évangile une puissance pour m'édifier dans la très sainte foi, et qu'il est puissant par Dieu pour renverser les forteresses du péché et de Satan, et je verrai le salut de Dieu s'approcher de moi. Lorsque l'Évangile devient la puissance de Dieu et agit sur le cœur des hommes par l'opération de la puissance divine, ils peuvent distinguer entre la foi qui est bâtie sur les déclarations des hommes et ce qui est opéré par la révélation et la manifestation de la pensée de Dieu dans leur âme. C'est là ce sur quoi nous pouvons nous appuyer et avoir dans notre propre âme une ancre sûre et ferme. Lorsque je dépends de Christ, le rocher des siècles, de ce siècle et de tous les autres, ma foi doit être placée en lui. Et lorsque je n'entendrai pas seulement la parole, mais je vivrai dans l'obéissance à elle. À quoi sert-il de faire profession que j'ai la lumière au-dedans si je ne lui obéis pas? Car sans cela, tout n'est qu'hypocrisie. Toute prétention à la sainteté ou à la justice, toute mortification, n'est qu'hypocrisie, au-delà de ce que nous trouvons que la puissance de la vérité imprime une marque dans notre cœur et notre esprit, nous amenant à l'obéissance de la foi. Que ceux donc qui professent la justice vivent justement, et que ceux qui entendent l'Évangile vivent dans l'obéissance à celui-ci, et que ceux qui professent être chrétiens vivent véritablement comme des chrétiens. Lorsque chacun vient à reconnaître en lui-même, dans la mesure où l'Évangile a brillé sur lui, qu'il a reçu la vérité dans l'amour qu'elle mérite, qu'il aime la vérité telle qu'elle est en Jésus, et qu'il obéit à l'Évangile, il connaîtra le salut qui en procède. Il y a une manifestation de la puissance de Dieu dans l'Évangile, et il y a la foi en elle et la confiance en elle. Voilà ce qui appartient à un chrétien, voilà le commencement et le premier pas de la vie chrétienne. Nous devons croire en Christ, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui croit doit prendre garde à marcher dans la vérité qu'il a reçue, et alors il aura un témoignage de sa puissance et de sa vertu dans sa propre âme. Cette vertu et cette puissance, s'il s'y joint, gouvernent son cœur et sa vie, et lui donnent la victoire sur le monde et sur les tentations de Satan. Vous savez que, dans les temps primitifs, il y eut des croyants qui non seulement gardaient la foi, mais vivaient par la foi, et par cette foi ils remportaient la victoire sur tous les attraits, les plaisirs et les vanités du monde. « J'ai combattu le bon combat, dit l'apôtre, 2 Tim 4:7-8. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, c'est pourquoi une couronne de justice m'est réservée que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non à moi seulement, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. J'ai obtenu la victoire, et il reste pour moi un poids éternel de gloire. Mes amis, telle est notre ambition, et tout notre labeur parmi vous, que vous soyez édifiés dans la très sainte foi, que vous soyez ramenés à Christ dans toutes vos rencontres et assemblées. Vous devez désirer être enrichi de foi et avoir votre propre grenier rempli de tous les fruits de l'Esprit, et non seulement rechercher la connaissance de la vérité, mais être soumis et obéissant à ce que vous savez, autrement, par votre religion, vous ne ferez que vous nuire à vous-même. Et l'apôtre Pierre, 2 Pierre 2:20-21, parle de connaître la vérité et d'y être affermi, et de certains qui, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'y trouvent de nouveau empêtrés et vaincus, et leur dernière condition est pire que la première, car il eût mieux valu pour ne pas avoir connu la voie de la justice que l'ayant connue, de se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Il y a une puissance qui accompagne la prédication de l'Évangile, qui vous rendra capable de faire ce que vous savez. L'Évangile est une doctrine puissante, que vous le sachiez ou non, ou que vous vous y soumettiez ou non. Toutefois, souvenez-vous, je vous prie, que le peuple de Dieu est un peuple volontaire au jour de sa puissance. C'est une sorte particulière de personnes qui sont consacrées à Dieu et qui soumettent tous leurs honneurs, intérêts, profits et plaisirs mondains au bon plaisir de Dieu et ne désirent d'autre plaisir ni bonheur que de jouir de sa présence. Il y a un grand nombre de professants croyants de profession qui ont des notions et des apparences extérieures, mais à qui manque cette vertu, cette vie et cette puissance qui devraient les établir dans la religion et dans l'amour de la vérité. Le Seigneur qui connaît nos cœurs sait que notre travail et notre peine parmi vous ont été destinés à votre bien, et que le désir de notre cœur est que vous soyez sauvés au jour du Seigneur Jésus. Nous voudrions que les gens considèrent, soient attentifs et entendent ce que Dieu dit, et se souviennent de ce qu'il vous a enseigné par les ministres de l'Évangile. Nous avons tous des oreilles pour entendre, rendons-en grâce à Dieu, béni soit Dieu qu'il y ait une puissance et une capacité d'entendre avec l'oreille extérieure, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas même prêter l'oreille à ce qui pourrait leur être dit de la part du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que l'Esprit dit aux églises, et ce qu'il dit à sa propre âme. Écoutez ce que l'Esprit dit de votre propre état et condition. Si c'est bon, bénissez-en Dieu. Êtes-vous dans une condition si bonne que vous n'ayez aucun trouble, aucune détresse à déplorer, aucun besoin à combler? Heureux êtes-vous de n'en avoir point. Mais si vous trouvez que vous avez mal agi, et si le Seigneur devait cette nuit vous appeler à rendre compte, le Seigneur a beaucoup contre vous, j'en suis sûr, et je vous dis qu'il est de votre devoir de vous tourner vers le Seigneur avec un repentir sincère, afin que par Christ Jésus, vous receviez le pardon et la rémission de tous vos péchés, et d'entendre ce que l'Esprit vous dit, à vous-même et en vous-même. Je vous prie, venez et faites-en votre œuvre et votre tâche pour tout le temps qu'il vous reste à vivre, accomplir votre salut avec crainte et tremblement, afin que lorsque Christ viendra, vous puissiez dire « Viens Seigneur Jésus, viens promptement, purifie-moi et sanctifie-moi, et prépare-moi à être présenté au Père sans tache ni reproche. Le jour vient où ce sera le désir de chacun de vous. Le jour du Seigneur vient quand on entre dans le royaume. Pour ceux qui n'entrent jamais dans le royaume, le jour vient quand ils meurent. Ainsi chacun voit Jésus venir pour le juger. Et c'est le souffle ardent et le désir de mon âme que chacun de vous ait les yeux tournés vers le Seigneur, et il regardera du haut du ciel et prêtera attention aux cris et aux soupirs de l'âme nécessiteuse. Dieu se lèvera et cherchera ceux qui soupirent après lui et désirent être réconciliés avec lui par le médiateur Jésus-Christ. Le Seigneur aime trouver un tel peuple, et je suis heureux d'annoncer à un tel peuple la bonne nouvelle de l'Évangile, et d'enseigner comme Dieu m'a enseigné, bon et droit est le Seigneur, c'est pourquoi il vous enseignera et vous guidera dans la voie où vous devez marcher. Marchez humblement avec Dieu, il résistera aux orgueilleux, mais il donnera sa grâce aux humbles. Marchez avec droiture devant le Seigneur en ce jour d'Évangile qui brille sur vous, aimez l'apparition de Dieu et estimez-la, bien qu'elle ne vous ait pas été aussi glorieuse qu'à certains autres, ne méprisez pas le jour des petits commencements. Vivez dans la soumission à la grâce que le Seigneur vous a donnée, et le Seigneur vous donnera davantage de grâce, répandra son esprit et multipliera sur vous ses bénédictions. Le Seigneur a commencé en vous une bonne œuvre, et il la mènera à terme jusqu'au jour de Christ, et il a promis de faire venir sur vous le jour glorieux de sa visitation. Je vous laisse au Seigneur, je vous confie à sa faveur et à sa protection. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de salut sinon par Jésus-Christ, et qu'il n'y en a aucun à recevoir par Christ jusqu'à ce que vous veniez à croire en lui. À celui qui sonde le cœur et éprouve les reins, qui pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, à cause de Christ Jésus le médiateur, à lui je vous confie, ne doutant pas que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera enfin et l'amènera à sa perfection, pour sa propre louange et pour votre salut. Sermon XV, l'excellence de la paix avec Dieu prononcée par Stephen Crisp à Devonshire, le 5e jour du 8e mois, 1691. Mes amis, le grand bonheur de l'homme en ce monde est d'avoir connaissance de Dieu, du Seigneur qui l'a fait, de qui il tient ici la vie et le souffle, et son bien-être éternel dans l'au-delà. Cela sans doute, chacun le reconnaîtra tôt ou tard, que la paix avec Dieu est un grand joyau, et la meilleure condition et richesse. C'est le grand désir de tous d'y parvenir un jour ou l'autre, et il y a une grande négligence du bonheur parmi les fils et les filles des hommes, à ne pas le rechercher, à ne pas s'efforcer de l'atteindre tant qu'il est possible de l'avoir. Oh ! Combien gaspillent leur temps pour des objets qui se fanent et périssent, tout en sachant au même instant qu'ils sont encore privés de la faveur de Dieu et de la paix avec lui. Oh ami ! La seule pensée et la considération de la valeur de ce joyau, et de toute la misère d'en être privé, et de l'incertitude de notre temps pendant lequel il peut être obtenu, pourrait pousser chacun à une recherche sérieuse et diligente du chemin et des moyens par lesquels on pourrait l'atteindre, afin d'avoir un lieu de repos pour son âme, et satisfaction pour l'homme intérieur, afin que tout aille bien pour eux quand le temps ne sera plus. Et ceux qui en viennent à cette considération, et qui sont résolus dans leur cœur et leur esprit à s'y appliquer, et à y mettre tous leurs efforts, chercheront d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ceux-là ont besoin d'un encouragement quotidien sur leur chemin vers le ciel, et du côté du Seigneur rien ne manque à toutes ces âmes pour qu'elles atteignent leur désir. Mais hélas, telle a été et telle est encore la misère de milliers de personnes. Elles cherchent la paix avec Dieu, mais elles se trompent de voie, elles ne cherchent pas selon cette voie-là, ni ne s'attachent à ces moyens par lesquels et au travers desquels Dieu a promis la paix. Vous trouverez à peine quelqu'un qui ne voudrait pas avoir la vie éternelle et la paix avec Dieu. Nous n'aurons pas besoin de persuader les gens de souhaiter et de désirer la paix avec Dieu lorsqu'ils viendront à mourir et à coucher leur tête dans la poussière. Il n'est pas un Balaam qui ne désire mourir la mort des justes et que sa fin dernière ne soit pas comme la sienne. Il n'est pas un scribe, ni un pharisien, ni quiconque professe la religion qui ne cherche la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a rendu témoignage à leur sujet qu'ils étaient un peuple envieux, orgueilleux, persécuteur, et pourtant ils cherchaient la vie éternelle, et il s'arrêtait à certaines méthodes et voies par lesquelles il pensait l'obtenir et en jouir, et ainsi font beaucoup de gens chaque jour. Ils sont dans un état et une condition où il est peu probable qu'ils en jouissent. Les méthodes et les voies qu'ils se sont choisies pour trouver la vie éternelle et obtenir la paix avec Dieu n'atteindront jamais le but. Et Dieu a bien voulu nous faire découvrir les nombreux chemins détournés que les gens ont choisis et par lesquels ils cherchent la paix avec Dieu. C'est pourquoi nous sommes disposés en tout temps à montrer aux gens leur erreur en ses plus grandes matières, de la plus haute importance pour eux. S'ils se trompaient dans leur manière de chercher quelques biens terrestres et qu'ils manquaient leur but, ils en connaissent le prix. C'est une perte d'autant qu'ils auraient pu atteindre s'ils avaient pris la bonne voie. Mais c'est une perte inexprimable, une perte inestimable, s'ils perdent la paix avec Dieu, après toutes les peines et le travail qu'ils fournissent pour l'obtenir. Je vous en prie, amis, considérez ces choses, elles sont de grand poids, et vous le direz un jour ou l'autre. Car a dit notre Sauveur, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme ? Oh, combien il est triste de considérer qu'un homme n'a pas fait provision pour son âme, qu'il n'a pas de lieu de repos pour son âme immortelle, lorsque son corps ne peut plus la retenir. Si tel est l'état d'un homme quand il vient à mourir, il eût mieux valu pour lui ne jamais être né. Les hommes peuvent vivre, amasser des richesses et jouir d'une condition abondante, mais s'ils sont privés de la faveur de Dieu, s'ils manquent de paix avec lui, que feront-ils de leur jouissance périssable ? Ils ne peuvent pas réellement se satisfaire de ces choses passagères et visibles, et si ces personnes ne s'occupent que de leur corps et négligent leur âme, ne vivent-elles pas comme les bêtes qui périssent ? La bête cherche sa nourriture, et quand elle la trouve, elle la mange avec délices et plaisir, et peu après elle se couche et meurt, et il en est ainsi des âmes insouciantes, elles n'ont aucun égard pour leur état futur, mais disent « mangeons et buvons, et réjouissons-nous, car demain nous mourrons ». Oh, si chacun de nous ici appliquait sérieusement son cœur à considérer le poids de ces choses qui concernent notre état éternel. Si les personnes faisaient cela, alors elles pourraient en venir à s'interroger sur leur propre âme. Quelle méthode et quelle voie sont les plus sûres pour atteindre une fin si bienheureuse ? Car vous savez qu'il y a quantité de gens, si vous regardez partout dans le monde, vous verrez presque tout le monde courir ça et là dans telle ou telle forme de religion et s'adonner à des pratiques religieuses. Qu'y a-t-il donc ? Que voulez-vous ? Nous voulons la paix avec Dieu ici et le repos éternel dans le royaume des cieux en cette vie et dans l'autre. Ainsi les nations ont-elles été dispersées et chassées de ci de là dans la poursuite du bonheur et de la satisfaction ? Il y a parmi les gens une croyance générale qu'il existe un ciel et un enfer, et qu'ils auront leur part dans l'un ou l'autre. Personne ne désire une part dans les temps qui brûlent de feu et de soufre. Ces misérables impies qui crient à Dieu de les damner ne pensent pas ce qu'ils disent, ils voudraient tout de même être sauvés, chacun criera enfin « Seigneur, aie pitié de moi », s'il a seulement le temps de le dire. Crions maintenant « Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, accorde-moi ta faveur. Seigneur, fais luire sur moi la lumière de ta face, Seigneur, touche mon cœur endurci et amollis-le, et brise-le par la puissance de ton esprit. Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi, ouvre mes oreilles afin que j'entende ta voix. Il est bon que les gens fassent usage du temps tant qu'ils l'ont. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, et Dieu répandra sa colère sur ceux qui n'invoquent pas son nom. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, et Dieu donne un grand encouragement aux gens à le chercher. Que voulez-vous dire par chercher Dieu ? Je suis allé à l'église et j'ai dit mes prières, j'ai suivi la voie dans laquelle mes pères m'ont conduit et m'ont dirigé, j'espère trouver miséricorde à la fin. Je suis croyant, je crois en Jésus-Christ, qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité pour ma justification, j'espère, par les mérites de Jésus-Christ, être sauvé. Que voulez-vous dire par chercher le Seigneur ? N'entendons-nous pas tous parler de lui, et ne le prions-nous pas chaque jour ? Y a-t-il quelque chose de plus commun que cela, dont les gens parlent ordinairement entre eux, quant à la connaissance générale de Dieu ? Vous et moi pouvons voir, à notre grand regret, que beaucoup crient « Seigneur ». Seigneur, et n'entreront pourtant jamais dans le royaume de Dieu. Si tous ceux qui prennent le nom de Dieu dans leur bouche devaient entrer dans le royaume des cieux, ce serait un royaume bien infect. Si tous les ivrognes et fornicateurs d'Angleterre, et toutes les personnes profanes et impies qui prennent le nom de Dieu dans leur bouche, devaient entrer dans le royaume des cieux, ce serait un royaume très souillé et impur. Il n'y entre rien d'impur, rien d'abominable, rien qui aime à faire le mensonge. Il faut donc un peuple plus particulier qui aura une entrée abondante dans le royaume de Dieu, et il faut quelque chose qui les y autorise, car vous vous souvenez que notre Sauveur a dit « Nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils le révélera ». Tout ce qui peut être connu de Dieu par les œuvres, Vous et moi pouvons le connaître sans la révélation de Christ. Nous n'avons pas besoin d'attendre cette connaissance, nous pouvons l'avoir par des livres, nous pouvons l'avoir sans la révélation de Christ. Rien ne satisfaisait certains du temps de notre Sauveur sinon la vie éternelle, et notre Seigneur Jésus leur dit, « Vous sondez les Écritures parce que, disait-il, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et pourtant, malgré toute la profession qu'il faisait, il leur dit, « Nul n'a jamais vu Dieu, ni vu sa forme, ni entendu sa voix. » Ils étaient étrangers à Dieu, quoique possédant une connaissance générale de Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Il y a une connaissance générale de Dieu, et les gens espèrent atteindre la paix avec Dieu et la vie éternelle. Leurs parents et leurs maîtres leur ont enseigné les principes du christianisme et les attributs de Dieu, mais tout cela ne les conduira pas à une connaissance salvatrice de Dieu, ni à la réconciliation avec lui. Car un homme aussi méchant que le diable peut le rendre, connaît ces choses, et pourtant peut être serviteur du diable et faire son œuvre. Il n'est pas né de nouveau pour devenir enfant de Dieu, avec toute sa connaissance extérieure. Non, celui qui désire venir à la véritable connaissance salvatrice de Dieu, notre Sauveur nous a dit que nul ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. C'est la voie sûre pour parvenir à la véritable connaissance de Dieu le Père. Christ a la clé de David, qui ouvre et nul ne peut fermer, et qui ferme et nul ne peut ouvrir. Il peut nous amener à contempler la gloire de Dieu dans sa propre face. Sans lui, nous n'avons guère de chance de parvenir à la connaissance salvatrice de Dieu. Le pauvre homme est dans un état de déchéance, de chute. Il est tombé dans le péché et se trouve dans un état d'éloignement de Dieu, et c'est pourquoi il ne peut venir à lui que par un médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme, Christ Jésus, et c'est lui qui doit faire la paix pour lui, sinon il ne l'aura jamais. Comment donc viendrons-nous à Christ, s'il est le seul moyen, et qu'il n'y en ait pas d'autre, par lequel nous puissions parvenir à la connaissance de Dieu, comme le dit l'Écriture ? Écoutez, comment pouvons-nous venir à Christ ? Je réponds, vous ne viendrez jamais à lui s'il ne vient pas d'abord à vous, vous ne pourrez jamais le faire. Ce n'est pas venir à Christ que de dire que vous croyez que Christ est mort et ressuscité, et monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu, et qu'il vit à jamais pour intercéder pour son peuple, ni de lire ses paroles et ses doctrines qu'il a prêchées çà et là, dans des réunions et des assemblées solennelles. Mais si vous croyez qu'il est le Fils éternel de Dieu, et l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, vous devez venir à lui et vous abandonner entièrement à sa gloire et à son service. Sans cela, vous ne pouvez venir à lui, et il ne vous conduira pas au Père. Christ s'est approché de nous, il se tient à la porte de nos cœurs, et il se tient là et frappe. Voici. C'est le mot qui appelle à l'attention, que les gens doivent remarquer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Pourquoi frapper, dit Christ, afin que vous ouvriez la porte de votre cœur, car si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, et cette grâce qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Cette manifestation de l'Esprit et de la lumière au-dedans, nous la tenons de Christ. Telles sont les voies et les méthodes que le Seigneur Christ a prises pour s'approcher de nous. Or votre propre raison vous dira que, si telle est la voie et le moyen que Christ prend pour s'approcher de nous, nous ne pouvons prendre une autre voie pour nous approcher de lui. Si Christ a pris, dis-je, cette voie pour venir à nous, par la lumière et la manifestation de son propre esprit qui nous convainc de péché, si telle est la manière dont Christ vient à nous, il ne peut y avoir d'autre manière pour nous de venir à lui que par le même moyen de sa grâce. Il a dit, « Si vous avez la lumière, croyez en la lumière. J'ai la lumière, je suis éclairé, il y a quelque chose qui révèle vos mauvaises pensées. Pourquoi dois-je croire en la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière, comme le dit notre Sauveur ? Ceux qui sont enfants de la lumière l'auront pour héritage, et ceux qui sont enfants des ténèbres doivent avoir les ténèbres pour héritage. Tant que nous avons la lumière, nous devons y croire, et nous serons faits enfants de lumière. Dieu a envoyé son Fils, et le Fils a envoyé son Esprit et sa grâce céleste dans nos cœurs, afin que nous nous approchions de lui, et que nous soyons dirigés sur la manière d'entrer en connaissance avec lui, et de faire ce qui plaît à Dieu, et d'en venir à être en union avec lui, et de faire les œuvres de Dieu. Voilà ce que Dieu exige de nous, que nous croyions en celui qu'il a envoyé, que nous embrassions la lumière et que nous croyions au Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie, que voulez-vous dire par croire ? Il y a en moi quelque chose qui me freine et me reprend à cause du péché, qui m'en détourne et me dit de changer de conduite. Dois-je écouter cela ? Est-ce cela que vous entendez par croire ? Quant à ce degré de foi, ceux qui le négligent maintenant y croiront plus tard, car à la fin, le monde entier, et les damnés en enfer, confesseront certainement qu'il leur a été accordé de la grâce, et de la lumière, et des moyens, et qu'ils auraient pu aller plus loin et échapper à la misère dans laquelle ils sont tombés. Mais il y a une foi plus précieuse encore, à laquelle je voudrais que vous participiez, une foi qui agit par l'amour. Puisque le Seigneur a été si gracieux que d'étendre sur moi sa miséricorde et son amour, je suis tellement captivé par l'amour de Dieu que je lui obéirai. Cette foi qui agit par l'amour est la foi des élus de Dieu, celle par laquelle nous pouvons obtenir la victoire sur nos passions et nos convoitises, et sur Satan et les pièges du monde. Quand nous nous sommes attachés de près à la grâce de Dieu et que nous croyons en Christ, c'est bien, mais nous devons aussi nous soumettre et obéir. Pourtant, lorsque la foi a produit l'obéissance, vous ne pouvez être justifié par elle, vous ne pouvez être sauvé par votre obéissance sans Christ, il est l'auteur et le consommateur de notre foi, et un médiateur du commencement à la fin. Or, tous ceux qui se tiennent près de l'apparition de Christ dans leur propre cœur ont saisi la méthode établie pour venir à lui. C'est Christ qu'ils doivent entendre. Il s'est approché des hommes afin qu'ils puissent entendre sa voix et l'entendre nous dire nos pensées mêmes. Pourquoi ne l'écouterai-je pas lorsqu'il me reprend et me réprimande à cause du péché? Il s'approche et me dit que j'ai mal agi. Seigneur, j'ai commis l'iniquité, je ne le ferai plus. Ainsi Christ converse avec son peuple, et non seulement les reprend et les réprimande lorsqu'ils font le mal, mais les persuade et les rend capables de faire le bien. Il est médiateur, il est un intermédiaire, et il a pris chair sur lui afin de les réconcilier avec Dieu, ceux qui croient en lui. Or, lorsque nous venons à avoir connaissance de Dieu et que nous l'avons choisi pour être notre Dieu, il nous enseigne ce qui est bon et nous reprend pour le mal que nous avons fait. Qui peut choisir un meilleur guide pour le conduire à la connaissance de Dieu que Christ, qui converse avec nous, pénétrant nos pensées et nous parlant? Je peux l'entendre avec l'oreille intérieure de mon cœur. Quand je fais le mal, il me le reproche et me dit que ce que je devrais rechercher est d'une valeur inestimable. Et si, par mon incrédulité et mon insouciance, je le manque, il eût mieux valu pour moi ne jamais être né. Maintenant, nous sommes en voie de recevoir l'aboutissement de notre foi, le salut de nos âmes, ne négligeons donc pas un si grand salut. Nul ne peut se sauver lui-même, ni sauver l'âme de son frère, ni trouver une rançon, ni procurer une offrande pour expier son péché. Que chacun donc qui veut que son péché soit expié et pardonné, et qui ne peut être satisfait ni apaisé tant qu'il n'a pas la paix avec Dieu, vienne à Christ le médiateur, et vienne avec foi et vérité dans les parties intérieures, et se soumette à lui, et consente à être gouverné par lui. Alors Christ le sauvera et le présentera sans tache ni défaut à son Père. Considérez que ceux qui sont le peuple de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, et ceux qui ont manqué leur chemin vers la réconciliation avec Dieu, qui aiment quelque autre voie, ou pensent venir à Dieu par une autre voie que par Jésus, le médiateur, leur labeur sera perdu. C'est pourquoi je dois vous exhorter et vous persuader, vous qui êtes hors du chemin, de prendre la méthode de Dieu et d'entrer dans la voie de Dieu. Les conditions, je vous l'ai dit, sont déjà fixées, il ne s'agit pas maintenant de faire marcher « je vous donnerai tant pour être en paix avec Dieu » ou « je me séparerai de ceci ou de cela qui m'est cher ». Non, l'accord est fait entre Dieu et Christ, et son alliance est ordonnée en toutes choses et sûre, et son alliance ne demeure sûre avec personne sinon avec ceux qui sont en Jésus-Christ. Une alliance a été faite avec Abraham, en ta postérité toutes les nations de la terre seront bénies. La promesse est faite à la postérité, c'est-à-dire à ceux qui sont en Christ, les fidèles sont comptés comme la postérité. Or les fidèles sont ceux qui obéissent à Christ, qui est la postérité de la promesse, en qui toutes les familles de la terre sont bénies. Ils doivent venir à Christ, la postérité, ils ne doivent pas se rebeller contre lui, ils doivent venir à lui et croire en lui. Quand bien même il y aurait d'innombrables nations et familles dans le monde, la promesse n'est pas pour elles, mais pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Voici la voie que les gens doivent saisir pour entrer en connaissance avec Dieu, ce qui est d'une si grande nécessité avant de mourir, ils doivent venir à Christ lui-même, par son esprit dans leur propre cœur. Nous n'avons pas besoin d'aller vers tel ou tel homme savant, ni de nous informer auprès de telle ou telle sorte de personne. Mais nous devons crier à Dieu pour obtenir aide et direction, venir à lui, et lui abandonner toutes les puissances et facultés de notre âme, afin qu'il les gouverne. Dieu veut des serviteurs qui lui obéissent. Si jamais nous parvenons au salut, il nous faut un autre maître, un seul est votre maître, savoir Christ. Je dois me soumettre au gouvernement de Christ, et il doit me conduire et me diriger, si je veux être un enfant de Dieu. Quand les gens en viennent à voir qu'il n'y a pas de voie efficace, sinon de se soumettre à la grâce de Dieu astérisque dans leur propre cœur, et de se remettre aux directives de l'Esprit de Christ dans leur âme, alors ils rencontrent beaucoup de risques et de difficultés. Il y a l'apparition de la croix de Christ, et nous devons porter cette croix si nous voulons suivre Christ et lui obéir en toutes choses. Voilà ce qui tuera tous mes plaisirs, ruinera toute ma religion et détruira toutes mes espérances, je dois être comme un homme qui a bâti une maison sans bon fondement, je dois tout abattre et rebâtir sur un nouveau fondement. Se soumettre à la grâce de Dieu, c'est obéir à ce que la grâce de Dieu vous enseigne de renier. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le présent siècle avec sobriété, justice et piété. Tite 2:11-12, c'est ici que beaucoup se sont détournés. La croix de Christ leur a paru si aiguë, si dure et si intolérable qu'ils ne pouvaient la supporter. Ils ne voulaient pas payer le prix d'une telle religion. Quoi, dois-je me séparer de toutes mes délices et de mes convoitises et plaisirs chéris et de tous mes intérêts dans le monde pour Christ? Je ne puis m'en séparer, ces choses se dressent sur mon chemin, je préfère perdre mon âme plutôt que de renoncer à ce qui m'est si agréable et de m'unir à la lumière de ma propre conscience et à la vérité dans mes parties intérieures. Quoi, ne dois-je pas avoir même la liberté de penser? Quoi, mes pensées doivent-elles être réglées par ce qui est si contraire et si répugnant à mon esprit? Dois-je chasser de mon cœur toutes les mauvaises pensées et n'y laisser demeurer que les bonnes? Qui peut tenir ici? Qui peut supporter une telle rigueur? Plutôt que d'endurer cela, je choisirai de perdre mon âme. Beaucoup ont perdu la vérité pour cette raison, et beaucoup sont en danger de perdre leur âme. S'il y a en vous quelque désir de paix avec Dieu, afin de ne pas quitter ce lieu avant de l'avoir obtenu, saisissez l'occasion présente. La dureté du cœur est un fléau désespéré, elle vient d'une longue persistance obstinée dans le péché. Quand nous avons résisté au jour de la patience et de la longanimité de Dieu, et attristé le Saint-Esprit de Dieu, alors Dieu nous abandonne aux convoitises de notre propre cœur, parce que nous choisissons de suivre la voie de l'enchanteur, quelque sage qu'il paraisse. Quand nous nous bouchons les oreilles et ne voulons pas prêter attention aux appels de Dieu, quand les hommes persistent et que rien ne peut les arrêter dans la course de leurs convoitises et de leurs plaisirs, mais qu'ils veulent garder leur jouissance charnelle et leur amitié avec le monde, cette dureté de cœur devient un fléau désespéré. Prenez garde qu'elle ne vous surprenne et n'amène sur vous ruine et destruction. Considérez la patience et la longanimité de Dieu et que sa bonté vous conduise à la repentance. Considérez que Dieu a attendu pour vous faire grâce, il a exercé envers vous une grande longanimité et patience, alors qu'il aurait pu vous retrancher il y a longtemps et vous donner votre part avec les damnés en enfer, mais il a écouté la voix du médiateur qui a plaidé pour vous, il a étendu sa patience et sa longanimité aux méchants et aux rebelles aussi, et pour cette raison, l'apôtre nous dit, Christ est le sauveur de tous les hommes, surtout de ceux qui croient. Or la patience et la longanimité de Dieu se sont prolongées envers tous, et nous n'en avons pas tiré profit. La conscience a ressenti les coups et les réprimandes intérieures de Dieu à cause du péché, et les appels intérieurs de sa grâce pour nous amener à la repentance, mais nous n'avons pas tenu compte de ces appels, ni écouté la voix de Dieu, afin d'entendre pour que nos âmes vivent. Oh, ne remettons pas notre repentance plus longtemps, mais aujourd'hui, tandis qu'on dit, aujourd'hui, écoutons sa voix et n'endurcissons pas nos cœurs, mais ayons un cœur tendre, que nos cœurs soient amollis et attendris sous la parole de Dieu et sous les coups de son jugement. Si jamais le Seigneur vous amène à un état de tendresse, vous recevrez la parole de Dieu avec douceur et vous la mêlerez à la foi. Alors elle agira efficacement pour l'amendement de votre vie, elle produira la foi chez ceux qui ne croient pas et fortifiera la foi de ceux qui croient. Alors nous en viendrons à bénir le Seigneur et à louer et magnifier son grand nom pour sa patience, sa longanimité et sa miséricorde quand ce jour il a prolongé et étendu avec grâce envers nous. Sermon Continued. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.